Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Lénaïque
Bonjour
Monnier.
Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1.
C'est des insultes. On a une collègue qui s'est fait cracher dessus parce que le patient n'avait pas reçu son résultat à temps. C'est dommage, mais ça devient nos quotidiens journaliers.
Des incivilités de plus en plus fréquentes dans les laboratoires. Reportage à Tourcoing où des patients pressés, stressés s'en prennent aux laborantins.
Les journées du patrimoine perturbées, mais pas forcément annulées. À Paris, les visites sont maintenues, mais sécurisées.
Se faire tout beau pour la photo de classe, pour au final porter un masque, un vrai casse-tête pour les photographes.
Et puis on nettoie les calanques aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Les Marseillais partent à la pêche aux déchets.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tous les indicateurs se dégradent. Alerte Santé publique France, le nombre de décès liés au Covid-19 a doublé en une semaine.
On compte 265 morts contre 129 la semaine passée. Le virus touche surtout la tranche des 20-30 ans, mais il progresse également chez les plus de 75 ans. Plus 45% de cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière.
C'est dans ce contexte que le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de Nice ont dévoilé de nouvelles mesures pour endiguer la propagation du virus.
Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans les jardins, sur la plage ou le long de la promenade des Anglais. Les bars, les cafés, les restaurants devront fermer à minuit et demi. La vente d'alcool à emporter est interdite aussi après 20h. Et puis la jauge est limitée à 1000 personnes. Voilà pour ce qui concerne les grands événements.
Et de ce fait, les journées du patrimoine ont été annulées dans plusieurs villes.
Là où le niveau de contamination est élevé, Lille, Marseille, Nice, donc Montpellier, Bordeaux ou encore en Corse. En revanche, Jean-Rémy Baudot à Paris, il sera possible de visiter de nombreux monuments, dont les hauts lieux de notre République.
Oui, l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale et quelques grands ministères, les chanceux qui ont pensé à réserver pourront visiter les coulisses du pouvoir. À chaque fois, Covid oblige, le nombre de visiteurs est réduit, 5000 contre plus de 20000 une année classique pour l'Élysée. Mais cette édition recèle néanmoins quelques surprises. Pour fêter son centenaire, le ministère de la Santé ouvre ses portes. Le bureau d'Olivier Véran, où beaucoup de décisions sur le Covid sont prises, est notamment accessible. Autre bureau à visiter, celui du président. À l'Élysée, le Salon Doré vient d'être entièrement rénové. Emmanuel Macron pourrait y accueillir les visiteurs demain avec son épouse Brigitte. Fallait-il maintenir ces visites au risque de créer des attroupements en pleine pandémie ? Matignon balaye la critique. Toutes les mesures de précaution seront respectées, elles seront strictes, promet l'entourage du Premier ministre. Gestes barrières, distance, lavage des mains. Un message que le monsieur patrimoine du gouvernement a aussi martelé. Selon Stéphane Bern, je cite, « Visiter un monument pour les journées du patrimoine n'est pas plus dangereux que d'aller faire ses courses. »
Et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sera l'invitée de Wendy Bouchard ce samedi à 18h15 pour parler justement aussi de ces journées du patrimoine. Les tests salivaires arrivent, ils ont fini par être approuvés par la Haute Autorité de Santé.
Le but est de réduire les délais des tests, gros point noir de la politique actuelle de lutte contre le rebond de l'épidémie. Les personnes qui ont des symptômes ou qui ne tolèrent pas le test PCR y auront accès. Ça va aussi soulager les laborantins qui en ont bien besoin, car les incivilités dans les laboratoires ont beaucoup augmenté. Le reportage à Tourcoing de Maximilien Carlier.
Devant l'entrée du laboratoire, une dizaine de personnes font la queue. Blouse blanche, masque sur le visage et listing dans les mains, c'est le responsable, Mouloud Ahmad, qui gère les entrées et fait un peu l'agent de sécurité.
Un mètre de distance. Attention, hein. Un mètre, je surveille.
Si on ne fait pas ça, ça va dégénérer et ça va dégénérer sur nos secrétaires et nos personnels.
Et entraîner incivilité, agression verbale, au téléphone ou à l'accueil, Elodie et Hélène, secrétaire médicale.
C'est des insultes. On a une collègue qui s'est fait cracher dessus parce que le patient n'avait pas reçu son résultat à temps. C'est dommage, mais ça devient nos quotidiens journaliers.
On se fait engueuler, quoi.
Les patients, on dirait qu'ils sont de plus en plus pressés, de plus en plus... ils ont peur. Alors qu'on fait le maximum, mais on peut pas faire.
En cause, le délai pour prendre un rendez-vous pour un test PCR, 4 jours, c'est trop long. Et ceux qui râlent, ce sont...
C'est surtout les gens qui partent en voyage. Ils sont pas contents parce qu'ils veulent faire ce test. Et nous, on peut pas accepter. Pour eux, on les empêche de partir en vacances. On essaie de leur faire comprendre qu'on n'est pas des animaux, on n'est pas à leur service, à leur disposition, et puis qu'on fait notre travail comme on peut. Parce que pour nous, c'est pas facile non plus. Voilà quoi.
Chacun s'estime prioritaire alors que dans ce laboratoire, le retard est de 10 minutes maximum. Tourcoing, Maximilien Carlier, Europe 1.
Voilà, les tests salivaires qui seront complétés aussi en octobre par les tests antigéniques qui, là pour le coup, c'est dans le nez. À nouveau, c'est l'un des moments préférés des enfants à l'école, la traditionnelle photo de classe.
Oui, en temps normal, on se fait tout beau pour ce moment et ça nous fait des souvenirs pour toujours. Quand on les ressort des années après, on essaie de se souvenir qui est qui. Mais en temps de protocole sanitaire strict à l'école, la tâche se complique. Virginie Riva.
Difficile de reconnaître ses camarades plus de 30 ans après sur les vieilles photos de classe. Alors imaginez si en plus ils étaient tous masqués. C'est pour éviter ça que les photographes scolaires se cassent la tête. Au primaire, les enfants ne sont pas masqués, mais l'instituteur, lui, l'est. Au collège et au lycée où les élèves le sont, beaucoup d'établissements choisissent de ne faire que des photos individuelles. Les élèves enlèvent leur masque le temps de la photo. Mais dans les deux cas, le photographe propose un beau photomontage à la fin pour se rapprocher le plus possible d'une photo traditionnelle. Didier Mété du studio Laurel.
On fait un trombinoscope qui est l'addition en fait de toutes les photos individuelles avec un habillage qu'on essaye de rendre assez sympathique. Hein. Donc soit on met les enfants unitairement dans un carton, soit on les met sous forme de jeu de loi. Et ensuite la photo traditionnelle sur laquelle soit le maître a le masque, soit il n'a pas le masque parce qu'on l'a pris une deuxième fois en photo sans un masque et qu'on a fait après un échange de tête. Et là les parents ne voient rien. Ils ont une photo vraiment traditionnelle.
Cette question n'est en réalité pas abordée par le protocole sanitaire du ministère de l'Éducation nationale. Chaque école peut décider au cas par cas comment faire et on s'en remet au bon sens des chefs d'établissement.
Et l'école qui doit assouplir son protocole sanitaire, selon les chiffres, plus de 5000 cas avérés de Covid ont été enregistrés ces 7 derniers jours parmi les élèves.
Et toutes ces questions justement sur l'école, sur les masques, sur les tests salivaires antigéniques, on les posera à Aurélien Rousseau, le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Il sera mon invité à 8h15. Dans un instant, alors qu'il est 7h06, on va voir comment le secteur automobile s'adapte aux toutes nouvelles zones à faible émission. À tout de suite.
Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal de Lénaïque Meunier. Un coup d'accélérateur maintenant dans la lutte contre la pollution.
Avec la mise en place des zones à faibles émissions. Ce sont des zones où les véhicules les plus polluants sont réglementés. Pour les constructeurs, donc, il faut innover. C'est le cas de BMW qui vient de lancer une technologie laquelle permet de faire basculer automatiquement un véhicule hybride rechargeable en mode électrique. Les explications d'Aurélien Fleureau.
Grâce à la géolocalisation, de manière automatique et quasiment imperceptible, nous sommes désormais dans une voiture électrique.
La technologie s'appelle la e-drive zone. Le GPS de la voiture détecte les limites de la zone à faible émission et s'adapte. Explication embarquée avec Ludovic Le Guem, porte-parole produit du constructeur allemand.
Alors vous voyez, on vient de quitter la e-drive zone. Donc la voiture vient de repasser en mode hybride. Et là, on va prendre une rue qui va de nouveau être dans la e-drive zone. Et dès l'entrée dans la rue, la voiture va de nouveau basculer en mode 100% électrique et n'émettre plus aucun gramme de CO2 sur place.
Sous vos yeux, votre tableau de bord passe du rouge moteur thermique au bleu de l'électrique. Une innovation née du constat que beaucoup de conducteurs n'optimisaient pas leur voiture hybride rechargeable, explique Vincent Salimon, président de BMW France.
Quand on a un hybride rechargeable, comme avec son téléphone, dès qu'on s'arrête, on recharge sa voiture parce qu'on va exploiter au maximum le groupe motopropulseur du véhicule.
Et pour inciter encore plus les conducteurs à opter pour l'électrique dans les centres-villes, le constructeur va lancer un système de points à accumuler pour obtenir des recharges gratuites.
Voilà donc pour cette innovation écologie encore avec la 5G. 70 élus écolos demandent un moratoire sur la 5G. Et à 7h40, Émile Meunier avec nous dans ce studio, l'avocat écolo qui a coordonné cette pétition. Un autre geste pour l'environnement, aller nettoyer les plages des Bouches-du-Rhône.
Oui, une opération se tient partout dans le monde aujourd'hui pour lutter contre les décharges sauvages. Et du côté de Marseille, plusieurs citoyens éboueurs se retrouvent cette année encore pour débarrasser les calanques des mégots et autres bouteilles en plastique. Nathalie Chevance.
Les calanques et les plages portent encore les stigmates de comportements délétères et de la surfréquentation touristique de cet été avec des déchets à l'appel. Éric Acopian, fondateur de l'ONG Clean My Calanque.
Il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris le parc national pour une déchetterie, qui ont déposé des lits, des meubles, enfin on a retrouvé des dingueries. Des pierres tombales, des couches culottes, des morceaux de meubles. Cette année était particulièrement, on va dire, catastrophique. Et c'est vrai que là, cette année, on a enchaîné 3 gros ramassages qui ont tous dépassé la tonne à chaque fois.
Cale Longue, le Roucas Blanc, les Catalans, des noms qui font rêver. Mais entre les rochers, deux fléaux, plastique et mégots.
Là, on a 8 à 10 000 mégots dans ce petit sac. On a juste à côté un sac de 15 kilos. On est à donc là 25 à 30 000 mégots ramassés. C'est effarant. Mais il faut remonter à la source. Il faut qu'on arrête de consommer autant.
Et le but, c'est aussi de recycler les mégots, mais pas seulement, comme l'explique Céline, bénévole.
Nous, on est en partenariat avec une marque qui s'appelle Recyclop, qui s'occupe de les détoxifier et ensuite de les revaloriser et en faire de l'énergie. Des bouts de verre poli qui vont être récupérés pour en faire des boucles d'oreilles, du filet de pêche qui va être récupéré pour faire des bracelets. Tous ces petits déchets, ce qu'on pourrait penser qui n'a plus aucune valeur, et ils les revalorisent tout simplement.
Sensibiliser dans les écoles, les entreprises, développer les plages sans tabac, des pistes pour préserver la nature. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Le tour Tour de France touche à sa fin au programme du jour, un contre-la-montre individuel.
Roglic s'apprête à entrer dans l'histoire de la Slovénie en remportant le Tour, si tout va bien. Tour de France particulier sous bien des aspects, puisqu'il s'est tenu notamment en période scolaire. Sauf que certains ont réussi à faire l'école buissonnière pour faire passer le peloton. Axel May.
Des centaines et des centaines d'enfants de Haute-Savoie sont venus cette semaine saluer le passage des coureurs sur le plateau des Glières au lieu de la Résistance. Même en septembre, le Tour attire la jeunesse. Parfois, les établissements scolaires ont tout simplement fermé leurs portes, les routes étant bloquées, explique Jean-Yves Goudbel, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Il y a des sites qui sont inaccessibles, en tout cas temporairement inaccessibles. Donc on ferme le collège quand c'est comme ça. Pas la peine de chercher des complications là où on peut faire simple.
D'autres fois, les établissements sont restés ouverts. Gilles Ménian conduit la voiture du directeur du Tour, Christian Prudhomme.
Et les instits profitaient du passage du Tour pour faire sortir les enfants, parce qu'on n'a pas au mois de juillet, puisque évidemment c'est les grandes vacances. Voir tous ces enfants heureux et crier au passage des coureurs de la caravane, c'est plutôt un côté sympathique.
Rémi, élève de 5e, a profité lui que son école du Jura ferme hier à midi pour aller voir le peloton.
Je suis excitée de voir les coureurs parce que dire qu'on les voit à la télé et là on va aller vraiment les voir en vrai, ça me stresse, je suis pressée de les voir.
Mais la situation sanitaire étant ce qu'elle est, les accès aux coureurs au départ et aux arrivées étaient quasi impossibles cette année. Adieu les autographes.
Côté foot, Lyon a concédé le nul 0-0 à domicile face à Nîmes. C'était le coup d'envoi de la 4e journée de Ligue 1 hier soir. Rentrée réussie en revanche pour l'équipe de France féminine avec ce déplacement en Serbie. Victoire 2-0, c'est un match de qualification à l'Euro.
Bravo à elle. Merci Lénaïque, à tout à l'heure pour le grand journal de 8h.